Frères et sœurs, avant de nous mettre à l'écoute de l'Écriture, je vous invite à la prière. Seigneur, nous recevons, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous recevons ta parole comme un cadeau qui vient à nous. Enseigne-nous le silence nécessaire à l'écoute de ta parole. Mais enseigne-nous aussi le silence nécessaire à l'écoute de la parole de l'autre. Enseigne-nous les mots justes pour exprimer nos pensées. Esprit Saint, viens éclairer nos chemins et resplendir dans nos cœurs. Amen. Pour ce culte particulier, je vous propose de nous mettre à l'écoute d'un texte connu de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 5, à partir du verset 11. Je le lis dans la Nouvelle Bible Second. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les humains. Nous sommes en pleine lumière devant Dieu. Et j'espère être aussi en pleine lumière dans votre conscience. Nous n'allons pas nous remettre à nous recommander nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons une occasion d'être fiers de nous pour que vous ayez de quoi répondre à ceux qui mettent leur fierté non pas dans le cœur, mais dans les apparences. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Et si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, et il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ et c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Au jour du salut, je t'ai secouru. Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Ta parole, Seigneur, est une lumière sous nos pas, une lampe sur notre sentier. Amen. Frères et sœurs, j'ai d'abord été moi-même interrogé par cette expression que Paul utilise, « L'amour du Christ nous presse, nous étreint. » L'amour du Christ nous étreint. Le verbe utilisé est d'ailleurs assez particulier parce qu'il comprend deux parties, un préfixe « avec » et puis un verbe qui veut dire « avoir » ou « mettre », « mettre ensemble », peut-être un peu serré ensemble, un peu comprimé ensemble, d'où l'idée de presser, mais il y a aussi l'idée d'être ensemble. Et je ne tords pas le texte en le disant ainsi. L'amour du Christ nous presse. Mais de quel amour s'agit-il ? Dans notre Église, parfois, on s'est ergoté sur les tournures en se demandant si c'est l'amour du Christ pour nous, si c'est l'amour de notre amour à nous pour le Christ. Et on aurait tendance souvent à répondre les deux, mon capitaine, mais non. Il y a un primat dans ce texte, et ce primat est très clair. C'est d'abord l'amour du Christ pour nous, bien sûr. C'est tout ce qu'il accomplit pour nous, et j'y reviendrai dans un instant. Il n'y a pas, sans cet amour-là, sans cet amour vivifiant, solide, exigeant, bienveillant, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de témoignage possible, il n'y a pas d'attestant non plus d'ailleurs, il n'y a pas de diaconie, il n'y a pas de croissance personnelle, il n'y a pas non plus de croissance d'église. Pour méditer un petit peu à partir de ce passage de l'apôtre Paul, j'ai essayé de reprendre des catégories que j'ai retrouvées dans un livre aujourd'hui très ancien d'un philosophe juif qui s'appelait Martin Buber. Martin Buber était un philosophe du début du XXe siècle, d'origine autrichienne, puis ensuite parti en Israël, qui avait à cœur le renouveau du judaïsme d'entre les deux guerres. Et nous savons ce qu'était le judaïsme d'entre les deux guerres. Dans notre Europe, souvent, un judaïsme très sécularisé, où les gens se sont aperçus qu'ils étaient juifs quand on leur a demandé de mettre une étoile jaune sur leurs vêtements. Martin Buber a essayé de réfléchir à la manière dont le judaïsme pouvait sortir de ce marasme, de cette sécularisation. Et il avait trois éléments. Il disait, au fond, le renouveau ne pourra venir que de l'unité, le renouveau ne pourra venir que d'une action, et le renouveau ne pourra venir que d'un discernement sur l'avenir. Il avait bien raison, et l'histoire lui a donné raison. L'unité d'abord. L'amour du Christ nous unit, et cela, je crois que c'est fondamental pour nous aujourd'hui, au-delà de nos propres choix. Je ne choisis jamais les frères et sœurs qui me sont donnés en Église. Mais je les reçois. Et même si avec eux il m'arrive d'avoir des désaccords profonds, je ne remets pas en cause l'appel du Christ sur moi et sur eux en même temps. Alors vous me direz, c'est bizarre que vous parliez d'unité, parce que dans ce congrès fondateur d'un mouvement qui se veut complètement intégré à l'Église protestante unie de France, à laquelle nous sommes attachés, eh bien pourtant on pourrait passer pour des gens qui veulent faire une tentative de scission, de division. Et il est important de rappeler qu'aujourd'hui, il n'est pas question de cela à aucun moment. Nous ne cherchons, et cela nous a déjà été rappelé, ni à promouvoir des personnes, ni à imposer de force des options théologiques, ni à former ce que Calvin appelait des conventicules de schismatiques. Nous devons garder à cœur de faire grandir dans notre Église l'amour du Christ qui nous presse. Et nous pouvons tous nous interroger, et moi le premier, est-ce que c'est vraiment toujours l'amour du Christ qui me presse ? Tout à l'heure, Eridzou nous a conduit dans un temps de repentance où nous devons faire retour sur nous-mêmes. Bien sûr, nous avons été les uns ou les autres blessés par certaines décisions de notre Église. Mais nous-mêmes avons sans doute contribué, peut-être à notre corps défendant ou en toute conscience, à ce que se creusent des fossés d'incompréhension sans être tellement étreints par l'amour du Christ. Nous laisser étreindre par Jésus pour que cet amour que j'ai reçu de lui se communique aux autres. Notre souci aujourd'hui ensemble, c'est de devenir une force de proposition, je dirais volontiers un lieu hospitalier, où le dialogue avec d'autres dans notre Église, mais je ne pense pas que les attestants ne soient seulement là que pour rénover l'Église protestante unie. Je crois que notre mission nous dépasse, et c'est très bien comme ça qu'on n'en ait pas conscience. Mais je crois qu'il faut toujours voir, quand on parle de l'Église, quelque chose de beaucoup plus large que notre dénomination. Nous sommes aujourd'hui ensemble comme force de proposition, comme lieu hospitalier, où le dialogue avec d'autres, donc dans notre Église et au-delà d'elle, soit fructueux possible, même lorsqu'il est difficile, mais ne jamais, jamais renoncer au dialogue, même lorsqu'il est difficile. L'amour du Christ qui nous étreint n'a vraiment, frères et sœurs, mais rien de sentimental ou de fadasse. Il ne se cantonne pas dans l'émotionnel ou le subjectif. Et le subjectif aujourd'hui est certainement une des grandes difficultés pour avancer dans notre Église. C'est un amour que nous avons reçu encore une fois. C'est un vrai cadeau, un amour qui a traversé, nous rappelle Paul, les épaisseurs, les opacités de la mort et du péché des hommes, qui a traversé ces opacités pour laisser s'infiltrer la lumière de la vie, la lumière de Pâques, la force de la résurrection. Cet amour du Seigneur qui s'attache si fort à l'homme, qu'il entre avec l'homme dans ses faiblesses et dans ses errances, pour le tirer de toutes ses forces vers la libération, vers la guérison, vers la vie. Nous devons être, je le crois très fort, des attestants de cet amour-là, qui inlassablement va chercher l'homme, va appeler l'homme et va l'ouvrir à sa lumière. Un poète catholique qui s'appelait Patrice de la Tour du Pin avait cette formule que j'aime bien. Il disait « Est amour l'acte infatigable d'unir ». Cet amour nous met à découvert, rappelle Paul. Nous sommes en pleine lumière, dit-il. D'autres traductions disent « nous met à découvert », »,« nous rend visible », dit le texte grec. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous rendons quelque part visibles. Et ce n'est pas, encore une fois, pour séparer, mais c'est pour permettre quelque chose de clair de se faire dans la vie de nos églises, dans nos relations les uns avec les autres. Nous sommes à découvert, ce qui veut dire que nous n'avons pas à taire nos désaccords et que nous ne sommes pas non plus destinés à être toujours des pauvres victimes des infidélités des autres. L'une de nous présente parmi nous ce matin écrivait récemment « Puisque notre unité est en Christ, nous pouvons débattre et assumer nos désaccords. Et pour assumer nos désaccords, il faut que ceux-ci puissent être mis à jour tranquillement. Il ne peut y avoir de débat sans cela. » Fin de citation. Oui, nous sommes ensemble, frères et sœurs, étreints par l'amour du Christ. Et nous pouvons du coup regarder les autres, non pas comme des ennemis potentiels à combattre, mais comme des frères et des sœurs à atteindre toujours dans ce qui est le plus vrai d'eux-mêmes que Dieu seul connaît. Et c'est pour cela que Paul parle et ne cesse de dire que nous sommes en service de réconciliation. Le mot réconciliation, là, est pour moi central. Mais cet amour-là est exigeant. Et pour terminer sur ce point, j'aimerais citer simplement un petit passage très bref de Dietrich Bonhoeffer dans « Le prix de la grâce » ou « Vivre en disciple », il a une autre traduction aujourd'hui. Cet homme qui dirigeait un séminaire de formation de pasteur clandestin pour l'Église confessante disait ceci en parlant, commentant la parole de Jésus du sermon sur la montagne sur la lumière qui est sur une montagne qu'on ne peut mettre sous le boisseau. Il disait ceci « Vivre en disciple ». Eh bien, le boisseau sous lequel l'Église cache sa lumière peut aussi être une façon consciente de se conformer au monde, quels que soient les buts, fussent-ils même d'ordre missionnaire ou provenant d'un amour mal compris envers les hommes. Cette parole, pour moi, résonne aujourd'hui avec une étrange actualité, amour exigeant. Je serai plus rapide pour les deux autres points. L'action. Nous séparons souvent parole et action. Or, dans un récent colloque, Gilles Boucoumont nous rappelait que la parole est performative. La parole touche, elle fait bouger. Elle fait bouger nos lignes intérieures, elle déplace, elle change, elle convertit, elle guérit. Et la parole, rappelle Paul, fait de nouvelles créatures, une nouvelle création de l'homme ou de la femme que nous sommes. La parole, c'est celle de Jésus, que j'entends aujourd'hui à travers les mots de la Bible. le Christ qui est parole faite chair, ne cesse de s'adresser à nous par la parole de l'Écriture. La parole de l'Écriture n'est pas seulement entendue dans ma subjectivité, dans mon intériorité, dans la clôture étroite de ma vie, de ma perception, de mes expériences. La parole du Christ dans l'Écriture, elle déploie la grande fresque des gestes de Dieu pour l'homme, mais aussi des réponses, des refus, des incompréhensions, des trahisons, des hésitations des hommes. Si la parole est action, quand elle est proclamée, la prière aussi l'est. La prière est à la fois une parole humaine pour que Dieu agisse, mais volontiers aussi, je dirais qu'elle est une parole entendue dans le cœur de l'homme de la part de Dieu pour que l'homme agisse. Les choses jouent des deux côtés. Et nous devons, frères et sœurs, être des attestants de cette parole et de cette prière agissante qui nous sont données, celles que Dieu nous adresse, celles à laquelle nous sommes appelés à répondre. Le mot « appel » est présent également dans le texte que nous venons de lire, et le mot « appel » utilisé par Paul est tout à fait construit sur le mot qui va donner le mot « paraclet », « Esprit Saint » dans l'Évangile selon Jean. Cette parole active de Dieu nous subjugue, nous entraîne au large. Elle n'est pas le miroir de nos désirs, de nos fantasmes, de nos imaginaires. C'est une parole qui nous vient de l'Esprit. Une parole qui nous vient de l'Esprit du Christ. Les ateliers de cet après-midi n'auront d'autre but que d'essayer de nous mettre en action à l'écoute de cette parole, fidèlement, joyeusement, fraternellement, humblement. J'en termine avec les catégories de Martin Buber par l'avenir. Un de nos collègues adressait aux attestants une lettre ouverte. Et en particulier dans le deuxième point de sa lettre, il disait « Oui, vous vous rassemblez parce que finalement l'avenir vous fait peur en quelque sorte. » Je résume un peu, mais c'est un peu ça. Et je me suis demandé effectivement l'avenir, comment le construire? Très récemment, j'ai eu l'occasion de lire un livre assez décapant. Alors, ce n'est pas un chrétien, mais c'est un philosophe français qui s'appelle Olivier Rey et qui parle de l'homme autoconstruit et s'enferme dans sa folle solitude. Il veut dire par là que souvent, dans nos sociétés, il est de bon ton, surtout aujourd'hui, d'oublier d'où nous venons. On s'affranchit du carcan d'un passé révolu, on récuse toutes les autorités, sans se rendre compte qu'en faisant ainsi, eh bien, notre société s'abandonne à d'autres déterminismes et aux idées les plus régressives qui soient parfois. Et je me dis que cette analyse ne guette pas seulement notre société, mais que probablement elle a quelque chose à dire à notre Église. Comment envisager demain ? Si nous ignorons d'où nous venons et ce qui nous porte, vous pouvez penser que c'est un peu bizarre de parler du passé pour envisager l'avenir, mais pour moi, les deux sont intimement liés. Et une collègue nous rappelait que le protestantisme français doit souvent éviter deux écueils. D'un côté, sacraliser un passé qu'on a transformé en passé glorieux. Je ne suis pas cévenol, donc je peux en parler facilement. Et réduire ainsi notre obéissance à une évocation de ce qui fut et qui n'est plus. Et le danger est grand alors de faire comme un paravent de toute cette histoire pour rester dans une forme de statu quo, d'immobilisme, ou bien de parapluie pour éviter de subir les embruns de ce qui nous viennent de l'extérieur. Ça, c'est une première approche. Mais l'autre approche, et l'autre écueil qui est tout aussi redoutable, c'est de passer par-dessus le lien à ce qui nous précède. Je suis frappé de constater que nos décisions d'Église se réfèrent souvent très peu, mais vraiment très peu, à ce qui nous a précédés. On refait rarement une relecture. Je ne parle pas seulement des réformateurs, je parle aussi des théologiens du XXe siècle, et il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas dit que des bêtises. Et je ne parle pas des pères de l'Église, dont Daniel Bourguet s'efforce de nous faire aimer la lecture. Évidemment, nous pouvons contester les prises de position de tel ou tel de ces théologiens, de ces personnages du passé, c'est bien et c'est même nécessaire. C'est même nécessaire parce que justement, leur lecture me procure au moins à moi deux bienfaits. Le premier, c'est que leur lecture affine ma pensée, affine ma proximité ou mon éloignement, ma distance d'avec eux. Et je peux peu à peu comprendre pourquoi je suis proche ou loin. Mais, et ça c'est aussi important, plongée dans nos racines me relie, au sens de relier, faire lien. Nous devons toujours, dans toutes nos décisions, construire des arches de pont qui permettront à d'autres de continuer derrière moi. Comment grandir sans racines ? Moi, je crains qu'une des raisons pour lesquelles notre Église peine à grandir, oui, à grandir, eh bien, c'est ce manque d'enracinement. Ce manque d'enracinement, pas seulement dans le terreau de la Réforme, mais souvent dans l'Écriture elle-même, ramené souvent à des interprétations subjectives, à des points de vue, mais loin de sonder une vérité extérieure à moi et qui vient me retrouver, me rejoindre. L'Écriture a un caractère radicalement autre, et pourtant ce caractère-là fonde la foi. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole du Christ. Pour terminer, je citerai ce philosophe catholique, Jean-Louis Chrétien, qui dit ceci, qui est une expression à la fois étrange et très parlante pour moi. Il nous faut laisser, et je le cite, nous laisser lire avec autorité par les saintes écritures. C'est un catholique qui le dit. La laisser nous déchiffrer dans toutes nos tentatives d'évitement, de fuite, de refus, dans nos péchés, dans nos pauvretés, dans les soifs et les faims qui nous tenaillent. Plonger nos racines dans cette histoire-là, c'est laisser se développer des branches et des bourgeons pour aujourd'hui et pour demain. Il n'y a d'avenir que s'il y a précédence, et nous devons être des attestants de cet enracinement-là. Alors, attestants, nous le serons en nous laissant aimer de l'amour du Christ qui nous étreint, qui nous pousse inlassablement à aimer, et en permettant à des hommes et des femmes d'aujourd'hui de se mettre en route vers la rencontre du Christ, dans la conversion au Christ qui est source de toute joie. Attestant, nous le serons en priant et en agissant pour que le Seigneur déploie en nous et au milieu de nous son action de pardon, de guérison, de résurrection. Attestant, nous le serons en espérant de toutes nos forces la venue du règne, dans la confiance que le Seigneur a été hier et a accompli hier, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il accomplit aujourd'hui, il le sera demain et il accomplira demain pour sa gloire. Amen.